Michael Kelly.
Merci Jacques. Pour moi, c'est un grand plaisir de présider cette séance, d'autant plus que Jean Bobéro est bien intervenu dans une revue que nous publions en Angleterre, la revue Modern and Contemporary France. Parce que justement, comme l'a souligné les intervenants de ce matin, les questions qui tournent autour de la laïcité ne sont pas des questions seulement franco-françaises, mais des questions qui se posent à toutes les sociétés, y compris la mienne. Mais c'est un grand plaisir de présenter Jean Bobéro, qui est, comme vous le savez, est professeur émérite et de l'école des hautes études, où il a fondé un centre consacré à l'étude de la laïcité, et je suis très content de savoir que c'est un centre qui fleurit, qui continue de vivre et de se développer. Je pense que Jean Bobéro est très bien placé, très au centre des débats qui se déroulent en France, et j'ai beaucoup de plaisir à lui inviter à nous adresser sur cette question. Jean Bobéro.
Merci beaucoup. Effectivement, tout en partageant et dans tout à fait l'idée qu'il y a la laïcité qui se concrétise dans des laïcités qui sont différentes suivant les pays, les situations socio-historiques et géopolitiques. Là, pour cette conférence, je vais parler de la laïcité française. Et je crois qu'il n'y a pas à opposer, disons, une problématique où on insisterait sur le fait que la laïcité existe dans plusieurs pays, et une autre où on parlerait uniquement de la laïcité en France, dans la mesure où malgré tout, même dans d'autres pays, quand on dit le terme laïcité, la France est souvent dans les représentations soit un modèle, soit un repoussoir. Si vous voulez, je dirais la laïcité en France concerne aussi les autres laïcités. Et on aimerait d'ailleurs aussi que la réciproque soit vraie et que les Français soient un peu plus au courant. Alors je donnerai par exemple un seul exemple. C'est le fait qu'on dit souvent qu'il n'y a que la Turquie et la France qui ont la laïcité dans leur constitution. Or, par exemple, quand il y a la crise actuelle au Mali, eh bien tout à coup on s'aperçoit que dans le Mali, dans la constitution du Mali, il y a une référence à la laïcité. Alors évidemment, avec la sécession du Nord, les choses se compliquent, mais il y a plein par exemple de pays de l'ex-Afrique française qui ont des références à la laïcité dans leur constitution, pour donner que ce seul exemple. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a la laïcité comme principe politique qui se concrétise dans des laïcités. Alors, tout ça, ce que je viens de vous dire montre que mon approche est une approche de sociologie historique, qui sera forcément rapide, mais bon, le débat pourra compléter tel ou tel point. Alors, je partirai de deux. Donc, le titre, c'est les deux laïcités, celle de 1905 et celle d'aujourd'hui. C'est un titre délibérément incisif, disons, pour faire l'hypothèse qu'il y a des différences structurelles entre la laïcité aujourd'hui en France et celle de 1905. Et c'est important parce que on peut faire deux constats. Le premier constat que n'importe qui peut faire, si vous voulez, c'est que du Front de Gauche au Front National, en passant par les autres pays, il y a une référence récurrente à la loi de 1905. Hein, tout le monde l'évoque et l'évoque positivement. Et partisans, militants de la loi de 1905. Donc on peut dire que cette référence est consensuelle, mais en même temps, elle est conflictuelle. Et si vous voyez les discours, si vous entendez les discours récents de Marine Le Pen, par exemple, elle prétend être la personne qui se réfère de la manière la plus stricte à la loi de 1905, et elle accuse les autres d'avoir abandonné certains aspects de la loi de 1905. Si vous entendez le discours de Jean-François Copé de l'UMP, ce discours indique que l'UMP serait une meilleure défenseur de la loi de 1905 que le Parti Socialiste, par exemple. D'où on peut dire aussi peut-être la contre-offensive d'Hollande avec la proposition de constitutionnaliser le titre 1 de la loi de 1905. Donc on peut dire que la loi de 1905 est au cœur des débats actuels sur la laïcité en France aujourd'hui, avec cette référence unanime au niveau de la classe politique. Mais le constat que fera l'historien et le sociologue, c'est que cette référence reste vague, imprécise souvent, et quand je dis imprécise, c'est au mieux, car souvent elle est également erronée. Et en fait, on se réfère plus à la séparation de 1795, la première séparation de la Révolution, voire à des choses qui sont dans les articles organiques de 1802, les articles de Napoléon Bonaparte. Pire, on invoque parfois la séparation de 1905 pour légitimer des choses que les auteurs de cette loi ont refusées, et notamment qui ont été proposés par des amendements et qui ont été refusés dans ces amendements. Et à un niveau plus théorique, on peut dire qu'il y a une confusion entre le jacobinisme, le gallicanisme et la loi de 1905. Très souvent, on met une équivalence entre la laïcité de 1905 et le jacobinisme. Or, bon, je reviendrai un petit peu sur le jacobinisme, mais pour faire vite, le passage de Combes, Émile Combes, qu'on surnommait Robespierreau, et c'était pas un hasard, à Aristide Briand, principal auteur de la loi de 1905, rapporteur de la commission parlementaire, c'est un passage d'une perspective, effectivement, qui par certains aspects est jacobine, par certains aspects, à une perspective qui s'éloigne énormément du jacobinisme, qui rompt avec le jacobinisme. Briand est un anarcho-syndicaliste au départ et il n'est pas du tout jacobin. Au contraire, il a une certaine méfiance contre un État trop puissant et ça se marque dans la loi de 1905. La confusion aussi est très souvent faite, même si elle est plus implicite, avec le gallicanisme, et les travaux d'Émile Poulain ont bien montré que la loi de 1905 est une rupture au contraire avec le gallicanisme séculaire qui existait sous la monarchie et que Bonaparte, disons, a réactualisé dans une certaine mesure au XIXe siècle. Alors, on peut dire qu'il y a une triple rupture. On peut très grossièrement définir le gallicanisme comme trois éléments. Le premier élément, c'est le droit de l'État à intervenir dans les affaires religieuses, et évidemment, sous la monarchie, dans les affaires de l'Église catholique, puisque c'était la seule religion légitime à part le court moment où l'édit de Nantes a bien fonctionné. Deuxième fait, ce droit de l'État d'intervenir s'accompagne d'un devoir de l'État envers la religion dite légitime, envers le catholicisme, combattre l'hérésie, être un peu le bras armé de l'Église. Et conséquence de cela, ces liens entre l'État et la religion dite légitime, le catholicisme, eh bien, il y a un catholicisme français qui est différent du catholicisme romain. On parle des libertés de l'Église gallicane, mais les libertés de l'Église gallicane, selon le terme de Bossuet, c'est par rapport à Rome, c'est pas par rapport au pouvoir politique en place. Alors, évidemment, Bonaparte a modernisé ce système, puisque sous Bonaparte, il n'y a plus le seul catholicisme comme religion légitime, mais il y a un régime pluraliste de cultes reconnus, où deux formes de protestantisme, les luthériens et les réformés, et le judaïsme sont également des cultes reconnus. Il reste ces fondamentaux, le droit de l'État d'intervention et de contrôle sur ces cultes reconnus, les privilèges, le clergé est des cultes reconnus et salarié par l'État, il peut avoir des atteintes aux cultes reconnus qui sont des délits. Cette idée quand même aussi d'un catholicisme ou de religion un peu à la française, même si l'ultramontanisme se développe au cours du 19e siècle, et même si au départ Bonaparte a dû faire un compromis avec le concordat, avec le pape, les articles organiques qui rajoutent unilatéralement au concordat reprennent le galliganisme qui était sorti par la porte avec le concordat, rentre par la fenêtre avec les articles organiques. Alors, l'article 1 de la loi de 1905 rompt avec ce contrôle étroit de l'État, en disant que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte. Bon, et c'était pas évident de commencer comme ça. Et plein de projets de loi ne commençaient pas par cette affirmation de la double liberté de conscience et d'exercice du culte. Bon. L'article 2 rompt avec le devoir de l'État qui amenait des privilèges pour les cultes reconnus, puisqu'il n'y a plus de cultes reconnus salariés ou subventionnés par l'État. Mais moins connu, l'article 4 rompt avec cette vision d'un catholicisme français autonome, différent du catholicisme romain, puisque au contraire, l'article 4 parle de la conformité à l'organisation générale des cultes, ce qui signifie pour l'Église catholique la conformité avec sa hiérarchie et avec le pape, avec Rome, et de fait le pape interviendra beaucoup plus directement dans les affaires de l'Église, ce qu'on appelle l'Église de France entre guillemets, à partir de la séparation. Il s'en prive pas, même s'il refuse la séparation, il nomme tout de suite des évêques dès le vote de la loi. Bon. Et si les républicains ont mis 25 ans entre leur arrivée du pouvoir à la fin des années 70 et la loi de séparation de 1905, c'est parce que cette rupture avec le gallicanisme, le fait de donner la liberté des plus grandes libertés à la religion, de les mettre en gros dans le droit commun, n'était pas évidente, et il y a toujours eu, même après la séparation, des laïcs plus favorables au gallicanisme qu'à la loi de 1905. Alors, voilà un petit peu la toile de fond que je voulais indiquer. À partir de là, je dirais que quand on invoque la séparation, on dit que la laïcité est, en France, une laïcité républicaine. Effectivement, selon la Constitution, la République est laïque. Mais je rappelle que la Constitution ajoute, elle respecte toutes les croyances. Je le rappelle d'autant plus que, ayant eu à le dire à une autre conférence, après il y a eu une polémique sur Internet en disant « Bobéro veut que la France respecte toutes les croyances », ben c'est pas moi qui le veux, c'est la Constitution qui le dit, ce qui quand même lui donne un aspect beaucoup plus solennel et important. Et la Constitution dit aussi que la République est non seulement laïque, mais qu'elle est également indivisible, démocratique et sociale. Bon. Donc je vais structurer, si vous voulez, ces aspects à partir de ces trois caractéristiques, indivisible, démocratique et sociale. Alors, indivisible, j'attire votre attention également sur une erreur souvent commise, où on parle de la République une et indivisible, même des gens qui sont des personnalités politiques ou juridiques importantes le disent. Or, c'est faux. C'est la Constitution révolutionnaire de 1793 qui dit que la République est une et indivisible, mais la Constitution de 1946 et de 1958 dit que la République est indivisible, le une a été enlevé, et le fait qu'on a enlevé le une est pas un effet de hasard, c'est pas un oubli, bien sûr. Bon. Alors, au niveau de la loi de 1905, on peut référer à cet aspect indivisible à l'article 43. L'article 43, qui est l'avant-dernier article, dit que des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. Alors, cet article, pour moi, est éminemment ambivalent. D'une part, il reconnaît une certaine diversité, il reconnaît que la laïcité peut s'appliquer de manière différente suivant des aires culturelles, suivant des situations historiques et géopolitiques différentes. Actuellement, la spécificité des ultramarins est garantie par l'article 74 de la Constitution. Et même, ça aussi, c'est un fait méconnu, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ben, c'est un fait dans la Constitution. La Constitution, dans l'article 75, reconnaît le statut personnel. Alors tous les gens qui parlent de versus républicanisme français versus communautarisme anglo-saxon, ils oublient ce fait que le statut personnel est dans la Constitution en France, qu'on le déplore ou qu'on estime que c'est valable pour certaines raisons, peu importe, mais le constat est là. Bon. Alors quand je dis que c'est ambivalent, c'est que s'il y a une reconnaissance de la diversité dans l'article 43, il y a en même temps une logique qui est celle de l'empire colonial, et il faut se rappeler par exemple que les députés de l'Algérie à l'époque sont uniquement des Européens d'Algérie, bon. Et en fait c'est la logique, en Algérie par exemple, c'est la logique gallicane qui va continuer à exister. Dans d'autres territoires, ça sera une logique de délégation par l'État d'un certain nombre de fonctions sociales extrêmement importantes à des forces religieuses. Bon. Et certainement, là, la loi de 1905 est marquée par son époque et marquée par cette idée que la colonisation amène d'autres règles, si vous voulez, que l'Empire fonctionne selon d'autres règles que la République. Et c'est évidemment un problème un peu boomerang pour nous aujourd'hui. Un autre aspect donc de cet aspect indivisible, c'est en quoi l'aspect indivisible implique une neutralité. Alors, la loi de 1905 est claire là-dessus, et quand on regarde les débats de cette loi, il y a neutralité pour ce qui est commun. Il y a neutralité pour ce qui dépend de l'autorité publique. Et là, les travaux, par exemple, du juriste Pierre-Henri Prélot l'ont bien montré. Mais quand on voit, par exemple, quand on va dans les débats l'article 28, qui est l'article qui parle le plus de la neutralité, puisque l'article 28 dit que les monuments publics et les emplacements publics n'auront pas de marquage religieux. Dans les débats, c'est très clair. C'est parce que ces monuments publics et emplacements publics doivent être représentatifs de tout le monde et donc doivent respecter la liberté de conscience de tout le monde. Mais ce qui relève de l'individu dans l'espace public, lui, n'a pas à être neutre. Et Briand donne plusieurs exemples, puisqu'il s'agit d'architecture à ce moment-là, hein, de marquage religieux dans le marbre, si on peut dire. Bon, il dit que, évidemment, les enseignes des magasins peuvent avoir des marquages religieux. Un propriétaire qui a un jardin qui est très visible dans l'espace public peut faire un gros crucifix, un calvaire dans son jardin, et que le fait que ça soit visible de l'espace public n'a aucune espèce d'importance, n'a même pas à interdire, parce que là, tout le monde sait que c'est la décision libre et volontaire d'un individu citoyen, et cela ne représente pas ce qui est commun dans l'espace public, cela ne dépend pas de l'autorité publique. Et puis, l'article 28 émet des exceptions à cette neutralité, les édifices cultuels, les sépultures et les monuments funéraires, les musées, les expositions, et à partir de cet article, il y a cette fameuse distinction entre le cultuel et le culturel, et le religieux est à la fois cultuel et culturel, et en tant que réalité culturelle, il peut évidemment être une réalité commune, faire partie d'un patrimoine commun, même si on ne croit pas, disons, à ce qui symbolise. Mais il faut voir aussi qu'il y a eu d'autres articles qui ont été importants sur ce sujet. L'article 27, qui donc précède celui que je viens d'indiquer, a aboli les limitations des manifestations extérieures de la religion, des manifestations de la religion sur la voie publique. On parlait de voie publique et aujourd'hui on parlera de l'espace public. Limitations qui existaient dans l'article 45 des articles organiques. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais disons que par rapport à justement ce qu'avait fait Napoléon Bonaparte au niveau des manifestations extérieures de la religion, on pourrait penser que justement, dans la mesure où dans une perspective gallicane, l'État avait des devoirs envers la religion, il avait le devoir de respecter ces manifestations extérieures. Oui, mais il avait le droit de contrôler, donc de les limiter. Et l'article 28 libéralise et les manifestations publiques de la religion sont plus libres depuis la loi de 1905 qu'avant la loi de 1905. De même, le refus d'un amendement interdisant le port de vêtements ecclésiastiques en dehors des cérémonies cultuelles, hors de, donc du culte, dans la rue, dans l'espace public. Cet amendement d'interdiction a été refusé et du coup on abolit l'article 43 des articles organiques qui prescrivait de s'habiller à la française. Et le terme de s'habiller à la française pour les curés est très important puisque c'est lié à ce que je vous disais, un catholicisme français autonome par rapport au catholicisme romain, considéré comme obscurantiste, considéré comme étranger, considéré comme voulant une mainmise politique sur la France, etc., etc. Bon. Et l'obligation pour les curés, selon les articles organiques, de s'habiller à la française, signifiait qu'on considérait que le vêtement, la soutane, était quelque chose de plus politique que religieux. Alors évidemment, cette prescription, au fur et à mesure des décennies, s'était estompée et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les curés portaient la soutane dans l'espace public. Mais justement, on aurait pu revivifier les articles organiques à ce niveau-là. Et Briand refuse nettement, disant que la loi de 1905 est une loi de liberté et qu'elle n'a pas à statuer sur le vêtement. Bon. Alors il y a deux problèmes aujourd'hui qui sont plus liés qu'il n'y paraît, me semble-t-il. Il y a un problème de l'Alsace-Moselle, où, alors là aussi, si vous voulez, chaque point que j'aborde, on pourrait faire une communication sur ces points. Mais comme vous savez, il y a en Alsace-Moselle le concordat, des cultes reconnus, un salaire du clergé par l'État, avec d'ailleurs des différences. Les curés sont plus payés que les pasteurs, qui eux-mêmes sont plus payés que les rabbins. Ça rentre dans un droit dit local, qui est sur plusieurs points et très différent du reste du droit français. Par exemple, la loi sur les associations est beaucoup moins libérale en Alsace-Moselle que dans le reste de la France. Bon, et on pourrait multiplier à l'infini. Et moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est le silence qui entourait cette différence de droit très très forte entre les Alsaciens mosellans et les Français et le reste des Français. Et le fait que, à la fois, il y avait des slogans comme le droit à la différence ne doit pas générer une différence de droit ou des choses comme ça, et puis que tout le monde faisait silence sur le fait qu'il y avait bien en France une différence de droit de trois départements qui fonctionnent selon un droit très différent. Et très désuet, parce que les amendes sont en Reichsmark, par exemple. Et il faut faire des conversions du Reichsmark en euros. Enfin, c'est assez extraordinaire. Bon. C'est extraordinaire. Bon.